السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شافر الإسلام lorsqu'on entend le muezzin lancer l'appel à la prière, le adhan, et ce adhan qui retentit dans toutes les mosquées du monde, pour 5 salats quotidiennes par jour, cet adhan, cet appel à la prière qui ne s'arrête jamais par rapport au continent, par rapport au décalage horaire, au fuseau horaire. Les savants disent que le adhan se lance, s'entend de façon perpétuelle, s'enchaîne 24 heures sur 24 dans différentes zones du monde. Donc c'est quelque chose qui fait partie vraiment de notre dîn. Et lorsqu'on entend ce adhan, bien sûr, on répond aux paroles du adhan, on va lire le doua après le adhan, on le respecte, on l'écoute, on ne parle pas pendant le adhan. C'est des règles de masa'il, de jurisprudence qu'on connaît. Mais lorsqu'on entend le adhan, en plus, mes chers frères, en islam, on doit se rappeler également de l'historique, de tout le symbolisme qu'il y a derrière le adhan. Au-delà de la profondeur des paroles, voyons et analysons qui notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait choisi pour être le premier muazzin dans la masjid Nabawi. Qui notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait-il élu, choisi? C'était une responsabilité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre quelqu'un pour lancer l'appel à la prière. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est un appel qui est public. C'est quelque chose qui est public, qui va être, l'expression un peu moderne, qui va être médiatisée. C'est-à-dire, cette nouvelle va se répandre dans toute la péninsule arabe, qu'il y a un appel à la prière. Et donc, la personne qui va faire ce adhan, ce premier muadhin, va entrer dans l'histoire de l'islam. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, va choisir une personne qui n'était pas connue pour sa noblesse, qui n'était pas connue pour sa richesse, qui n'était pas connue pour sa notoriété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. Qui était Bilal? Un homme de peau noire, éthiopien, abyssinie. Un homme qui venait d'être affranchi par Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu il y a quelques années. Donc, non arabe. Et c'était presque un péché à cette époque. Si on n'appartient pas au Quraysh, à telle branche encore de la tribu du Quraysh, on ne peut pas être un personnage public. Donc, il donnait une importance capitale, primordiale, à ce qu'on appelle en arabe le nasab, la lignée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre, pour donner adhan à Madina, et puis, un an après le Sulh Hudaybiyah, lorsque les musulmans vont faire le Umratul Qadha, le Umrah qu'ils n'avaient pas pu faire l'année avant, bref, ils vont entrer pour la première fois à Makkatul Mukarrama, après la Hijra. Il y a un homme qui va s'élever au-dessus de la Kaaba pour lancer un adhan qui sera symbolique, qui va annoncer le retour du Tawhid dans l'endroit où il y avait le plus d'idoles dans toute la péninsule arabe. Et de ces deux occasions, le prophète alayhi salatu wassalam, sans hésiter, sans qu'il y ait nécessité de faire mashwara avec les différents sahaba, parce qu'il y avait unanimité sur le fait que celui qui avait le plus le droit de donner le adhan, c'était Bilal radiallahu anhu, le non-arabe descendant d'esclaves pauvres, celui qui était fouetté, humilié par les gens avant de lire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et qui est devenu un homme qui a un tel niveau, un tel degré, que le prophète alayhi salatu wassalam un matin va voir Bilal après le fajr, la masjid. Oh Bilal, dis-moi, en ce sens, qu'est-ce que tu accomplis comme bonnes œuvres? Bilal ne comprend pas la raison de la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit, oh Bilal, hier soir dans mon sommeil, j'ai entendu tes pas dans le Jannah. Qu'est-ce que tu accomplis donc comme bonne action pour qu'Allah Rabbul Izzah t'aime autant et que moi, Nabiullah, j'entends les traces de tes pas dans le Jannah. Ça, c'était Bilal ibn Rabah avant l'islam et lorsqu'il a lu le shahadat al-tawhid, comment il est devenu un homme honoré dans ce dunya et certainement honoré dans l'au-delà. Malgré, excusez-moi le terme malgré, hein, on n'a pas le droit de le dire, malgré ce qui faisait un petit peu sa faiblesse en guillemets, peau noire, non arabe, pauvre, esclave, sa condition d'avant n'a aucun intérêt, n'a aucune importance de l'islam, car Allah Rabbul Izzah dit dans le Coran, inna akramakum indallahi atqakum. Les gens, en ce sens, les plus honorés, c'est-à-dire les plus appréciés par Allah, qui comptent le plus pour Allah, c'est atqakum, ceux qui ont le plus de taqwa. C'est la seule chose qui compte. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, mais ce hadith est magnifique, ça devait être enseigné dans les collèges, dans les lycées, dans les cours de littérature, dans les cours de sciences humaines, mais on a préféré donner priorité à Voltaire, à Baudelaire ou à d'autres personnes. Mais si, subhanallah, on pouvait mettre en avant ce genre de texte prophétique, la fadla li arabi ala ajami, le non-arabe n'a aucun droit, aucun avantage sur l'arabe. Le blanc n'a pas d'avantage sur le noir, ni le asmar, c'est-à-dire la personne qui a la peau très brune, sur la personne qui est blanche, ou la personne qui est, quelle que soit la couleur. La seule chose qui compte pour Allah, c'est la taqwa. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cet autre hadith qui est magnifique, inna allaha la yanzuru ila suwarikum, alors que de nos jours, c'est le culte de la personne, le culte de la beauté. Avez-vous déjà vu un acteur qui a une tronche qui fait peur? Avez-vous, regardez pas, déjà vu une actrice qui n'est pas belle, magnifique, qui ressemble à un mannequin? S'il n'y a pas la beauté physique, la personne n'a aucun poids, aucune influence. Notre prophète alayhi salatu wa salam dit, inna allaha la yanzuru ila suwarikum, jusqu'à la fin du hadith, Allah ne regarde pas votre physionomie, votre apparence, ne regarde pas votre couleur. La seule chose qui compte pour Allah, Rabbul Izzah, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce sont là de belles paroles, oui ou non? Des paroles magnifiques, mais des paroles qui ont été reprises également par l'Occident, par le monde en guillemets moderne, par le monde en guillemets développé, par le monde qui a prôné ce qu'on appelle les valeurs humaines, en guillemets, toujours en guillemets, l'humanisme. Mais très souvent, ça se limite à une constitution, à une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça se limite à des textes de loi. À l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, ces textes de loi existaient, mais ils étaient appliqués dans son intégralité. Il n'y a jamais eu de racisme, il n'y a jamais eu de xénophobie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a jamais eu d'antisémitisme à l'époque de Al-Madina Al-Munawwara, tant que l'ils respectaient, les trois tribus des Yahouds, des Juifs, respectaient le pacte de non-agression, le prophète alayhi salatu wa sallam respectait ces gens et il avait des relations commerciales avec un commerçant juif jusqu'au dernier jour de sa vie. Ça, c'est les valeurs prônées par notre religion. Et quand on entend le adhan, on doit se rappeler de tout ça. Et on doit être fier que nous avons une religion qui a prôné des valeurs qui sont en train d'être reprises par les sociétés modernes. Valeurs qui ont été légiférées par Allah, Rabbul Izzah, il y a combien de siècles, mes chers frères? Il y a 1500 années, il y a 15 siècles. Et c'est ça notre fierté. Ça, c'est notre fierté. Maintenant, nous devons la capacité que nous avons de les mettre en pratique, de les faire vivre dans nos sociétés. Si on faisait vivre ne serait-ce qu'un principe de l'islam correctement, comme les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in le faisaient, assurément nous serions tous des motifs de guider pour l'humanité. Si on pouvait faire vivre au-delà de nos prières une seule des valeurs universelles profondément humaines de notre religion, nous serions des modèles pour l'humanité et nous ne serions pas décriés par les médias à cause de tel ou tel fait divers. Alors mes chers frères, à travers l'exemple du adhan, on a voulu mettre en avant le fait que dans notre dîn, les plus belles valeurs, ce qu'on appelle universelles, qui font l'humanisme, se trouvent dans notre religion, ont été légiférées, ont été révélées par Allah Rabbul Izzah, ont été prononcées par la parole du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et très souvent, on va appeler ça akhlaq, comportement. On va appeler ça mu'amala. On va appeler ça mu'ashara, la manière de se comporter dans la société, la manière de se comporter avec des collègues quand on collabore, on va faire de la négoce, la manière de se comporter à la maison, sous mon toit, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, il arrive les alliques, et ainsi de suite. Bref, les relations humaines, l'homme au sein de la société, qui doit être aussi pieux. On doit être pieux chez nous, on doit être pieux avec madame, on doit être pieux avec le voisin, tout comme on est pieux dans la masjid lorsqu'on se tient devant Allah Rabbul Izzah. Et très souvent, on étudie donc le akhlaq en voyant l'exemple des meilleurs des hommes, les sahaba, par exemple, ridwanullahi alayhim ajma'in, ou alors on étudie ces qualités-là avec leur aboutissement dans le Jannah. Quelles seront les récompenses dans le paradis pour celui qui fait telle action, pour celui qui a fait telle chose? Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit que la chose qui pèsera la plus lourde dans la balance au jour de Qiyamah, c'est al-khuluqul hasan, le bon comportement. Mais quand on parle de la balance, c'est juste avant d'entrer, Inch'Allah, dans le paradis. C'est-à-dire, c'est la dernière étape où on fait la dernière pesée pour décréter où est-ce que le croyant va aller, ou alors s'il est hypocrite, ou alors s'il est fasiq, pécheur en duacine, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui nous intéresse là, en quelques instants, c'est de voir une étape, mettre un peu les projecteurs sur une étape qui est extrêmement préoccupante. Une étape qui est, qui va générer énormément d'angoisse. On pourrait dire que c'est l'étape la plus difficile pour la race humaine depuis qu'il vient sur la terre jusqu'à son entrée, Inch'Allah, de le Jannah, ou alors même jusqu'à ce que la personne soit conduite dans le Jahannam, qu'Allah nous en protège. Cette étape, c'est Al-Mahshar, la résurrection. Cette étape, mes chers frères, elle est plus compliquée que Sakaratul Maut. Tout le monde connaît c'est quoi l'agonie. On a vu des gens agoniser, il n'y a pas besoin de décrire c'est quoi les difficultés quand l'âme doit quitter un corps. L'étape de Mahshar, c'est plus compliqué encore que les questions que les anges vont poser dans la tombe. C'est vraiment l'étape catastrophique par excellence. À un tel point que des gens, le jour de Al-Mahshar, de la résurrection, vont demander à Allah, Allahumma arhamna walau ila an-nar. Dites pas amin. Allahumma arhamna walau ila an-nar. Ou Allah, ait pitié de nous, même si c'est pour nous envoyer tout de suite dans le feu de l'enfer. Na'oud billah. Parce que ces années passées avec le soleil au-dessus des têtes, avec des gens qui sont proches de vous, dans des situations de azab, de difficultés indescriptibles, ça c'est le mahshar. Et dans cette étape de mahshar, ni Adam, alayhi salam, ni Moussa, ni Isa, ni Ibrahim, ni n'importe quel prophète, alayhi salatu wa salam, n'oseront bouger le petit doigt pour demander à Allah de changer la situation. Même pas, on ne parle pas de « Oh Allah, faites entrer tout ce monde dans le Jannah ». Ce n'est pas ça. « Oh Allah, que le mahshar se termine, qu'on passe à l'étape suivante pour que, s'il y en a qui doivent aller dans le Jahannam, mais qu'ils y aillent. Mais cette situation, elle devient ingérable. » Donc, c'est la situation la plus chaotique de l'histoire de la création. Et dans cette étape, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte quelque chose qui est exceptionnel, qui fait rêver, qui doit nous faire rêver. Quelque chose que je dois mettre en permanence devant moi, dans toutes les étapes de ma vie. À chaque fois que je lève les mains, je fais doua, je dois me rappeler de cette situation idéale, cette situation qui ne relève pas de l'utopie. C'est une réalité que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, que dans cette situation compliquée, là, il y aura des gens qui vont être honorés par Allah. Ajib. D'une telle situation de taklif, de complication, il y a des gens qui vont être honorés par Allah, qui vont être élevés par Allah, qui auront le cœur apaisé alors que les cœurs vont être bouleversés. Ces gens-là, ils sont, c'est pas toute la umma, c'est pas toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que sinon il faudra serrer les coudes. La priorité serait aux sahaba. Les gens qui vont être choisis pour avoir cette situation enviable, qui va être enviable par le monde, l'humanité tout entier, c'est pas parce que ces gens sont des prophètes, ces gens sont des compagnons d'un des prophètes envoyés par Allah, non. Ce sont des gens qui auront développé durant leur vie des sifat, des qualités qui sont appréciées par Allah. Et ils ont vécu ces sifat d'une telle façon qu'Allah a agréé leur passage de ce dunya et Allah va les élever, va leur accorder l'unique moment de répit, le jour du mahshar. Ce sont les sept catégories de personnes à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'ils seront sous l'ombre du trône d'Allah, Rabbul Izza, le jour de Qiyam. En général, mes chers frères, c'est un hadith plus ou moins connu. C'est un hadith que tout le monde connaît, ça fait partie des grands classiques du hadith. Mais nous, ce qu'on aimerait comprendre, même en quelques instants, et puis ça donnera matière à réflexion. Parce qu'il y a sept catégories, on ne peut pas parler des sept en 15 ou 20 minutes, même pas en une heure, ne serait-ce qu'une catégorie, ça va nous ouvrir l'esprit. Et ça va nous donner al-hath, la motivation pour essayer de déchiffrer et comprendre qui sont ces autres personnes et qu'est-ce que moi, croyant, je peux faire pour être comme eux. Parce que ce qui est magnifique, les muhadithines disent, c'est que ce hadith fait rêver. Pourquoi il fait rêver? Parce que quand on lit quelle sera la position de ces gens et pourquoi ils auront ces positions, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà acté. Parce que cette situation, mes chers frères, nous ne l'avons pas encore vécue. C'est une situation qui va avoir lieu un jour. Et pour l'instant, nous sommes tous au même niveau. Nous avons tous la possibilité de concourir en guillemets pour accéder à ce niveau. C'est-à-dire en développant une de ces sept qualités, ou idéalement plusieurs de ces qualités, le croyant peut espérer avoir une place comme ces gens-là qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyam. Le jour de la résurrection, ces gens seront sous l'ombre du trône d'Allah, Rabbul Izza. Et ce sera là une situation qui sera enviée de la création tout entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qui sont ces sept personnes. Et en commentaire, les muhadithines disent, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit les sept personnes? C'est pour que le croyant, c'est pas quelque chose qu'on apprend comme une prose, ou alors comme une histoire qu'on va raconter aux enfants avant de dormir. C'est un texte qui nécessite de la méditation, qui nécessite du recul, de l'analyse pour pouvoir les mettre en pratique. Parce que my dream, mon rêve sera d'être parmi ces gens-là. Allahumma ja'alna minhum. Et le premier homme, la première personne, bref, toutes ces qualités sont citées au masculin. Bien sûr, c'est valable pour le masculin et le féminin. Le dirigeant juste, imamun adil. Deuxièmement, shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, qui ne sortait pas des limites. Troisièmement, un homme dont le cœur était attaché aux mosquées. On va essayer de voir si on peut développer. Quatrièmement, des gens qui s'aimaient pour Allah, avec ikhlas, sincérité. Pas pour l'argent, pas parce que lui s'appelle monsieur un tel, lui s'appelle monsieur un tel, il a tel poste dans telle entreprise. Non, muhabba fillah, parce qu'il a la ilaha illallah de son cœur, comme le veut le verset, innamal mu'minuna ikhwa. Ça fait quatre. Cinquième catégorie, ah, subhanallah, ça franchement il faut écrire en lettres d'or dans toutes les maisons, chez tous les couples, jeunes mariés ou vieux mariés, anciens mariés. Cet homme qui reçoit des avances d'une belle et jeune femme, noble, de grande famille, riche, et il a la possibilité d'assouvir ses passions, parce que nous restons des hommes, nous restons des êtres humains avec des pulsions. Mais lorsque ce péché lui est proposé, il dit immédiatement, inni akhafullah, non. Il dit non. Alain, c'est pas le loup, Alain, c'est le grand philosophe français, il disait que philosopher, c'est dire non. On pourrait dire que la taqwa, c'est dire non. Quand Shaitan vient, il insuffle alladhi yuwaswi soufi sudur innas, il dit regarde ça, regarde celle-là, si tu peux la voir, c'est le plus beau coup de 2014. Et que l'opportunité se présente à toi. Ta femme ne sait pas. Tu es en déplacement, tu es en voyage d'affaires. Tu es dans un pays asiatique ou je ne sais pas où ça. Personne ne te connaît. Il n'y a pas un prawala, il n'y a pas un moulissab qui traîne par là, qui va faire panchat. Personne ne te voit si ce n'est Allah, Rabbul Izzah. Et dans ce moment où le péché est à portée de main, tu dis, inni akhafullah, non, j'ai dans mon cœur la crainte d'Allah, tu es le meilleur des hommes. Tu fais partie, tu peux faire partie de ces gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyamah. Ça fait cinq. Sixièmement, un homme qui donne une sadaqa, l'aumône, qui vient en aide à son prochain, mais avec un tel degré de ikhlas que l'expression est belle et elle a été reprise dans la langue française, que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Ce qui veut dire qu'il est généreux, il fait preuve de solidarité, il fait preuve de fraternité, c'est-à-dire les valeurs qui animent normalement notre société, et en plus, il respecte la dignité du pauvre. C'est pas qu'il va humilier la personne, bon, t'as raté ta vie, je suis là, moi j'ai réussi, je vais t'aider. Non, une sadaqa donnée avec un maximum de sincérité. Et pour clôturer, une catégorie magnifique, cet homme qui, le soir, s'isole dans une pièce de sa maison, qui pense à Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, qui lit le Coran, qui fait la salat, et il a un tel degré d'amour pour Allah dans son cœur, une telle montée de crainte d'Allah, une telle envie un jour de rencontrer Allah, qu'il y a des larmes qui coulent de ses yeux. Allah est tellement satisfait de cet homme qu'Allah l'inscrit parmi ces gens qui seront chanceux. Et faites les efforts, faisons les efforts, c'est la grande conclusion. On devait développer une, on n'en développera pas une seule, Inch'Allah, mais ça nous donnera l'envie de connaître ces gens-là. Comment faire pour les imiter? Les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez. Dans ces sept catégories, on retrouve liberté, on retrouve égalité, on retrouve fraternité, on retrouve solidarité, les valeurs qui animent toutes les sociétés modernes. Mais on retrouve des valeurs que la société ne connaît pas, la crainte de Dieu, la spiritualité, le recul, le contrôle de soi, s'en remettre à Allah, l'envie de retrouver Dieu dans l'au-delà. C'est des choses que le monde occidental ne connaît pas. Les psychologues, les pédopsychiatres vont donner tous les conseils, les psychiatres aussi, pour que l'homme se sente bien. Pour que l'adolescent ait une sexualité épanouie avec des thèses parfois farfelues. Mais dans le din, on nous montre les qualités pour avoir sa'ada, le bonheur dans ce dunya, et surtout être élevé, le joie de Qiyamah. Quand on lève les mains, on fait doua, que à partir de ce moment, ce doua doit faire partie de nos invocations quotidiennes. Oh Allah, accorde-moi les qualités pour faire partie de ces gens qui seront sous l'ombre de ton trône, le jour de Qiyamah. Qu'Allah nous l'accorde, ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.